France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices de France Musique. C'est un été au parfum de liberté comme on l'aime et qui nous fait respirer mieux. Votre matinale à suivre dans un instant avec Musique Matin par Clément Rochefort. C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, ravi de vous accompagner de nouveau ce matin en direct du festival de Radio France Occitanie-Montpellier. Nous sommes dans les sous-sols du Corum, cette grande salle de spectacle qui accueille toutes les grandes soirées du festival de Radio France. On est dans les loges, juste à l'entrée de la scène, et on est ici jusqu'à 9h. Je vous rappelle que le festival de Radio France se tient ici jusqu'au 30 juillet avec plein de soirées en direct sur France Musique et plein d'autres concerts, une dizaine par jour à peu près, qui sont naturellement enregistrés et que l'on vous proposera le plus vite possible à l'antenne tout au long de l'été. Ce qui ne nous empêchera pas ce matin de faire une petite halte au Festival de Cannes, où on ira prendre des nouvelles des compositeurs de musique de film dont on ne parle pas toujours assez. À 7h50, le jeu de l'été avec le dernier disque de Roberto Alagna a gagné le chanteur. À 8h, le journal de Marie-Hélène Duvigneau. À 8h10, le Tour de France des festivals qui nous entraînera ce matin à Sisteron aux Nuits de la Citadelle. À 8h25, l'été des frères Jacques, et à 8h30, nos invités du jour, deux membres du quatuor Eclis, Pierre Lelièvre et Gabriel Bianco, deux guitaristes qui se sont levés très très tôt ce matin pour venir nous parler. Et pour commencer la journée avec un peu de soleil, on commence avec le pianiste macédonien Simon Trebski, pianiste exceptionnel qui donnera ici à Montpellier samedi soir, c'est-à-dire demain, en direct sur France Musique, un programme italo-russe avec l'Orchestre National Montpellier-Occitanie et son chef Michael Schoenvant dans le cadre de la journée Viva Italia. Allez, c'est parti, bon réveil au soleil et bienvenue à tous sur France Musique.
Je sais que j'ai souvent tendance à être trop enthousiaste mais et à utiliser souvent le mot génial, mais cette musique, elle est vraiment géniale. C'est le final avec brio du concerto pour piano et trompette numéro 1, luth mineur opus 35 de Dmitri Shostakovich avec Simon Trebsky au piano, Andrei Kavalinsky à la trompette, l'orchestre philharmonique Janáček d'Ostrava sous la baguette de Christian Matchelaru. Simon Trebsky qui sera donc en concert ici au Festival de Radio France Occitanie-Montpellier. Ce sera demain, à suivre en direct dès 20h sur France Musique. France Musique où il est 7h39.
C'est l'été sur France Musique.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'actualité musicale. Et on commence avec une triste nouvelle, l'orchestre de chambre Harmonia Athénéa d'Athènes n'est plus. L'ensemble qui croulait sous les dettes a été dissous par les autorités. Fondé en 1991 par Sir Neville Mariner à l'inauguration du Mégaron, la salle de concert d'Athènes où il était en résidence, l'orchestre avait collaboré régulièrement avec le chef Georges Petrou, interprétant sur instruments d'époque un large répertoire allant du baroque au classicisme. Harmonia Athénéa avait aussi une activité lyrique, une activité de création. En 1991, 1996. Elle avait même reçu le prix de l'Union des critiques grecs pour son travail artistique et éducatif. Elle a accompagné les projets les plus grandes voix du baroque, Max Emmanuel Sencic, Karina Gauvin, Julia Lechneva ou encore Xavier Sabata. Le ministre de la Culture grecque, cependant, a annoncé que cette liquidation nécessaire pour des raisons économiques ne serait qu'une étape pour faire renaître l'ensemble sur des bases nouvelles. Le Covid, encore et toujours, qui continue de frapper, l'Opéra de Sydney a annoncé l'annulation et le report à plus tard de sa nouvelle production des Contes d'Hoffmann d'Offenbach. Les nouvelles mesures gouvernementales de confinement ne permettent pas de répéter dans les conditions normales, ni d'achever la fabrication des éléments de décor et des costumes à temps pour la première qui devait avoir lieu le 2 août prochain. La direction du théâtre australien a annoncé son intention de reprogrammer cette production des Contes d'Hoffmann dans les saisons à venir. En Corée du Sud, les autorités ont quant à elles ordonné d'abaisser le rythme des musiques diffusées dans les salles de sport afin de limiter la propagation des gouttelettes émises par les sportifs essoufflés. Selon les nouvelles règles en vigueur, le rythme des musiques diffusées ne peut désormais plus excéder 120 battements par minute. Voilà qui devrait peut-être susciter quelques nouvelles vocations à se mettre au sport tranquillement. Et enfin, direction le festival de Cannes, J-1, avant le grand soir. Le jury du festival remet demain, samedi, ses prestigieuses distinctions lors de la cérémonie de clôture. Qui décrochera la Palme d'Or? Le prix du jury, celui du scénario, suspense. Mais une chose est sûre, la musique repartira encore bredouille à Cannes. Aucune récompense ne vient en effet couronner le travail des compositeurs et des compositrices de musique de film. Pourtant, ils sont nombreux à réclamer la création d'un tel prix. Le reportage est signé Louis-Valentin Lopez.
Les musiciens interrogeaient le martel. Certes, le Festival de Cannes est un festival international, mais il se tient en France, où le compositeur a un statut particulier. C'est ce que rappelle Éric Neveu. Il a notamment écrit la bande originale de Cézanne et moi avec Guillaume Gallienne et Guillaume Canet.
Le compositeur et compositrice de musique de film est, en termes de droit d'auteur, le troisième auteur, la troisième autrice donc, du film. Indépendamment de l'aspect contractuel, c'est une notion profonde du droit d'auteur en France. On sait que le droit d'auteur en France est spécifique, qu'il est très différent du droit d'auteur dans les pays anglo-saxons, par exemple. Ça pourrait être aussi une bonne façon pour les festival de justifier la création de prix musique de film dans un festival comme Cannes, évidemment, ça prendrait tout son sens.
Alors pourquoi ça bloque? Éric Neveu suggère que ce serait la porte ouverte à toute une ribambelle de prix, des décors à la photographie. Pour Audrey Ismaël, compositrice que nous avons interrogée, le festival ne souhaiterait pas non plus léser les films sans bande originale, sans compter le fait qu'en France, le compositeur a souvent été relégué au second plan. C'est l'avis de Bruno Coulet, l'auteur de la musique du film Les Choristes ou encore de Microcosmos.
C'est une part qui est un peu négligée, peut-être parce que c'est un cinéma qui est très dialogué, qui est plus réaliste, les critiques en parlent peu. Je sais par exemple qu'aux États-Unis, quand il y a une critique d'un film, on parle toujours de la musique.
Même si le vent a un peu tourné ces dernières années.
Il y a une sorte de mépris, mais qui a changé. Bruno Mantovani, quand il dirigeait le CNSM, a créé une classe de musique de film avec Laurent Petit-Gérard, que j'ai reprise après. Si les compositeurs et les gens du cinéma comprennent que la musique de film, c'est pas seulement une jolie chose qui embourgeoise le film, mais qui au contraire peut être un terrain expérimental.
Alors, la question d'un prix à Cannes pourra se poser. En tout cas, Jean-Noël Tronc fait en sorte qu'elle se pose. Il dirige la SACEM, la Société des auteurs, des compositeurs et des éditeurs de musique, l'un des partenaires du festival.
J'espère que le conseil d'administration du festival s'emparera de la question pour voir sous quelle forme on pourrait ajouter en effet une récompense qui rende hommage au compositeur ou à la compositrice.
Ça fait plusieurs années que vous en discutez avec eux, qu'il y a des débats en tout cas ou des réflexions sur la création de ce prix.
Oui, je pense qu'il y a plutôt réflexion que débat parce que ça relève au fond de l'évidence. Cannes est une institution de stature mondiale et que donc faire bouger un tout petit peu les lignes dans ce domaine n'est pas simple. Pour les auteurs dont les droits d'auteur sont dévastés en ce moment par la crise, ce serait un très beau signal à la citation de Bertrand Tavernier que je trouve très forte, qui est de dire que le compositeur est le scénariste musical d'un film.
Le directeur de la SACEM qui espère aboutir à une reconnaissance spécifique pour les compositrices et les compositeurs sur la croisette dès l'année prochaine.
Un reportage au Festival de Cannes signé Louis-Valentin Lopez. Alors parmi les compositeurs présents au Festival de Cannes cette année, il y avait Mathieu Lambolet, compositeur de la musique originale de Wistram, d'Emmanuel Carrère, projeté en ouverture de la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Mathieu, qui sera notre invité lundi 26 juillet dans Musique Matin et qui a déjà signé plusieurs bandes originales, comme celle de la série Lupin sur Netflix ou du film Le Retour du Héros, c'était un film de Laurent Tittard en 2018. Un extrait de la bande originale du Retour du Héros, film de 2018. La musique est signée Mathieu Lambolet, qui sera donc notre invité dans une semaine, le 26 juillet, pour parler entre autres de la bande originale de la série Arsène Lupin, qui passe en ce moment sur Netflix, dont la deuxième saison vient de sortir au début du mois de juillet. Mathieu Lambolet, en plus, qui est un compositeur qui fait appel à des jeunes musiciens français du CNSM de Paris, entre autres, pour ses musiques de films, dans celle du Retour du Héros, en l'occurrence, il y avait la voix de Catherine Trottmann et puis le clavecin d'Orlando Bass. Merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Il est 7h48.
Thank you.
Un extrait des valses poétiques d'Enrique Granados, arrangé pour ensemble de cuivre par Gabriel Philippot et interprété par le Local Brass Quintet. Local Brass Quintet qui sera en concert en région dans le cadre du festival de Radio France Occitanie-Montpellier à Prades-le-Lez le 27 juillet, à Juvignac le 28, à Vauvert le 29 et ici même au Corum de Montpellier où je me trouve actuellement le 30. Ce sera le dernier concert de cette mini-tournée. Merci d'être avec nous ce matin. 7h, presque 52 minutes. Échauffez-vous les doigts, faites tourner les claviers, c'est l'heure de jouer sur France Musique. A gagné ce matin le disque Le Chanteur de Roberto Alagna, un disque paru en 2020, l'année dernière, chez Sony, où notre ténor préféré a voulu rendre hommage à la chanson française. Roberto, qui est un homme qui chante tout le temps, comme il nous le disait dans son interview vendredi dernier, il chante comme il respire, aussi bien dans le répertoire sicilien de ses origines que de la chanson française, à travers des tubes de Cosma, d'Enrico Macias, de Serge Lama, de Georges Vamparis ou encore de Brel. Alors pour gagner ce disque, il vous suffit de répondre correctement à la question qui va suivre, comme tous les matins. Vous nous écrivez via l'onglet Contactez-nous sur la page de l'émission, c'est très important, Musique Matin, sur francemusique.fr. Vous n'oubliez surtout pas d'indiquer vos coordonnées complètes. Alors voici la question. Vous avez encore 3 semaines pour réécouter sur francemusique.fr Sanson et Dalila de Saint-Saëns, qui a été donné samedi dernier au Corégie d'Orange, avec Roberto Alagna et Marie-Nicole Lemieux dans les rôles-titres. Dans la Bible, comme dans l'opéra, qu'est-ce qui confère à Sanson sa puissance surhumaine? Est-ce que c'est son talon, ses cheveux ou sa mâchoire? Dans la Bible, comme dans l'opéra, qu'est-ce qui confère à Sanson sa puissance surhumaine? Son talon, ses cheveux ou sa mâchoire? C'est à vous de jouer, vous avez jusqu'à 8h50.
Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle, au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte se promène dans sa tête, et quand elle voyage, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Mon pote le gitan, c'est pas marrant. Et dans notre bistrot, personne le comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête. Les joueurs de pelote s'arrêtent et plus rien. On a mal en dedans, mon pote le gitan, c'est pas marrant. Mon pote le gitan un jour est parti, et Dieu seul sait où il balade sa vie. Ce type-là était un grand musicien, ça j'en étais sûr, moi, je le sentais bien. Le taulier m'a dit qu'on est venu le chercher, un grand musical voulait l'acheter. Mon pote le gitan, il a refusé un haussement d'épaule et il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami, et pourtant ce gars-là ne m'a jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte, et dans ma petite tête, il y a du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée, quand je pense à lui, m'arrive de chanter. Toi sacré gitan, qui chantais le cafard au fond. Ta musique était pleine d'espoir.
Pote le Gitan, une chanson de Marc Herral. Cet extrait du disque Le Chanteur de Roberto Alagna qui est en jeu ce matin. Je vous rappelle une dernière fois la question. Dans la Bible, comme dans l'opéra Samson et Dalila, qu'est-ce qui confère à Samson sa puissance surhumaine, son talon, ses cheveux ou sa mâchoire? Continuez à nous écrire. Le tirage au sort, c'est tout à l'heure à 8h50. Roberto Alagna, qui est actuellement et jusqu'au 31 juillet au Corégie d'Orange dans Samson et Dalila. Un opéra retransmis aussi en différé sur France 5 ce soir à 22h10, précédé d'un documentaire sur le thème. Roberto Alagna, l'homme à la voix d'or, réalisé par Andy Sommer et Valérie Inizan, une soirée en partenariat avec France Musique. Vous écoutez France Musique, il est 7h57 ici à Montpellier comme partout en France. J'adore l'ensemble et les Witches. C'est toujours un bon moyen de se réveiller avec eux. Witches, spécialistes du baroque et de la Renaissance. Et c'était un anonyme, Wallum Green.
Quel scandale, les samedis et dimanches à 10h sur France Musique. Carmen, Parade de Satie, Péléas et Mélisande, Callas à l'Opéradrome, Mozart, Beethoven, ils ont surpris, choqué, étonné, révolté, scandalisé leur époque. Retour sur les grands scandales de la musique classique par Jérémy Rousseau. Une série à retrouver également en vidéo sur francemusique.fr et ses réseaux sociaux.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles, et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
France Musique.
Les petits oiseaux pour votre réveil sur France Musique. Merci d'être avec nous. Bon réveil à ceux qui ouvrent les yeux à l'instant. Dans quelques instants, deuxième partie de Musique Matin avec nos invités à 8h30, Pierre Lelièvre et Gabriel Bianco, deux guitaristes du Quatuor Eclisse qui sont en concert ici au Festival de Radio France à Montpellier et dans toute la région. Ils se sont levés très très tôt pour venir nous voir. Merci d'être avec nous. Il est 8h. Et un petit décrochage tout de suite. On remonte à Paris pour les informations avec Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour.
Bonjour Clément, bonjour à tous. L'Allemagne continue de rechercher des centaines de personnes après les inondations meurtrières qui ont dévasté l'ouest du pays hier. Le dernier bilan fait état d'au moins 81 morts, du jamais vu depuis la guerre. Plusieurs villes et villages sont encore isolés, ce qui laisse craindre un bilan plus lourd encore. Sébastien Baer s'est rendu à Euskirchen, 57 000 habitants, une ville située à une quarantaine de kilomètres de Cologne. Reportage.
La pluie s'est arrêtée, l'eau a commencé à se retirer, mais les traces de la catastrophe sont encore bien présentes. Dans les rues, l'eau noirâtre a laissé sa marque sur les murs à 1,30 m de hauteur. Léonie, 19 ans, reste sidérée par cette crue qui a piégé les habitants.
C'était complètement irréaliste de voir ça. C'était la panique, on entendait des cris, les systèmes d'alarme qui se déclenchaient, le bruit des vitrines des magasins qui se brisaient.
Les eaux ont tout englouti, les routes, les maisons, la crue a arraché les arbres et laissé un dépôt de boue que les habitants tentent de nettoyer comme Tina dans son appartement.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai tout sorti, j'essaie d'enlever la boue, mais je suis loin d'avoir terminé. C'est dingue ce qui s'est passé. J'avais jamais vécu ça. On a eu la crise du coronavirus et maintenant ça. Ça va être quoi la suite?
Privée d'électricité et de téléphone, la ville d'Euskirchen cherche encore ses disparus. Anna, 22 ans, a donné à la police une photo de son frère et de sa grand-mère, dont elle est sans nouvelles.
On ne peut joindre personne. Je ne sais pas s'ils ont besoin d'aide, s'ils ont un endroit pour dormir. En plus, là où ils vivent, la digue menace de céder. Ça fait peur car on ne sait rien.
La nuit dernière, 15 000 pompiers, policiers et militaires sont restés mobilisés pour venir en aide aux victimes.
Sébastien Baer à Euskirchen, la Belgique avec au moins 9 morts, le Luxembourg et les Pays-Bas où plusieurs quartiers de Maastricht ont dû être évacués ont également été durement touchés par les intempéries. En France, uniquement des dégâts matériels pour l'instant dans le nord et l'est. Point météo à la fin de ce journal. Ça aurait été sa plus longue fermeture après-guerre. La Tour Eiffel rouvre ses portes au public aujourd'hui avec l'inévitable pass sanitaire. À 12h45, elle accueillera ses premiers touristes avec une capacité d'accueil réduite à 50%, soit 13 000 visiteurs maximum par jour en raison de la jauge sanitaire imposée dans les ascenseurs face à l'épidémie de Covid. Éric Dupond-Moretti sera entendu dans une heure par les juges de la Cour de justice de la République en vue d'une possible mise en examen. Le ministre de la Justice est convoqué dans le cadre de l'enquête ouverte après les plaintes de syndicats de magistrats et de l'association anticorruption Anticor sur de possibles conflits d'intérêts. Il est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions de garde des Sceaux pour régler des comptes dans des dossiers dans lesquels il avait été impliqué en tant qu'avocat. Mais même s'il est mis en examen, il ne devrait pas être contraint de démissionner, Jean-Jérôme Bertolus.
Il a la confiance du président de la République, du premier ministre, de la majorité et au-delà, quel que soit son sort judiciaire. La jurisprudence Balladur date de 1993, rappelle Patrick Mignola, le président du groupe Modem à l'Assemblée. Aujourd'hui, au temps de la polémique permanente, comment exiger la démission automatique d'un ministre mis en examen ? À l'époque, il s'agissait d'éviter que le pouvoir politique donne des instructions aux magistrats, renchérit Christophe Castaner, le patron des marcheurs à l'Assemblée. Ce temps est révolu. Maintenant, la question, c'est de savoir si les syndicats peuvent choisir leur ministre, ajoute-t-il. La plainte des 3 syndicats de magistrats à l'encontre du ministre de la Justice hérisse la classe politique. Jusqu'à Gérard Larcher, le président du Sénat, reste que le garde des Sceaux, devrait à l'avenir se montrer discret. Il est déjà affaibli politiquement. Sa mise en examen va l'affaiblir encore un peu plus, comme elle va affaiblir la justice, note un leader de la majorité, mais sa démission serait encore pire.
La phase principale de Parcoursup s'achève ce soir à minuit. Souvent décriée, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur a été cette année plus rapide, fait valoir le gouvernement. Plus de 91 000 candidats sont malgré tout encore sans proposition pour la rentrée. Pour tous ceux qui vont rester sans réponse, il est conseillé de regarder les places vacantes de la phase dite complémentaire, ouverte depuis le 16 juin. Une possibilité qui leur est offerte jusqu'au 16 septembre. Le temps aujourd'hui, encore quelques averses du nord-est au centre-est et des orages cet après-midi des Vosges à la Corse, mais la vigilance pluie, inondation est levée dans le Doubs et le Jura. 13 départements restent tout de même dans le nord et l'est en vigilance crue. Belles éclaircies, voire grand ciel bleu sur le reste du pays. Les températures, 14 à 16 degrés ce matin, 17 à 21 près de la Grande Bleue, 21 à 26 cet après-midi sur la moitié nord, 26 à 30 au sud. France Musique, 8h05. Et retour tout de suite à Montpellier où nous attend Clément Rochefort.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Je peux vous dire qu'ici en tout cas le soleil brille de mille feux à Montpellier. Prochain journal. On va en profiter, bien sûr. Pas tant que ça, parce qu'on va remonter à Paris pour vous retrouver dès lundi. Prochain journal à midi sur France Musique. Quant à nous, eh bien, à 8h10, on partira aux nuits de la citadelle de Sisteron pour faire le point sur ce festival qui commence demain à 8h25. C'est l'heure de l'été des frères Jacques et à 8h30, ils sont bien réveillés. Pas tout à fait, mais si quand même. Nos deux guitaristes, Pierre Lelièvre et Gabriel Bianco du quatuor Eclisse, qui viendront nous parler de la série de concerts qu'ils donnent ici au festival de Radio France Occitanie Montpellier. Un festival où un autre événement se prépare, une série de concerts en région autour de la Semaine Sainte et des Leçons de Ténèbres, grande tradition baroque des offices où l'on chantait les lamentations du prophète Jérémie en éteignant progressivement les cierges de l'église pour accompagner le dolorisme des derniers instants du Christ. Entre Perpignan, Cahors, Narbonne ou encore Montpellier, ce sont 7 concerts qui seront enregistrés par France Musique, bien sûr, au cours desquels 6 ensembles baroques nous feront entendre les plus belles leçons de Ténèbres de Couperin, de Charpentier, de Bousignac, de Lalande, de Brossard ou encore de Jean-Baptiste Gouffet. 7 concerts du 17 au 23 juillet avec le consorte, l'ensemble Marc Moyon, l'ensemble Marguerite Louise et surtout le poème harmonique de Vincent Dumestre qui ouvrira et refermera la série autour de l'art sublime de la déploration. Un extrait de la première leçon de ténèbres pour le mercredi saint de François Couperin, François le Grand. C'était l'Incipit Lamentatione Jeremiae en latin, dans un latin très approximatif, avec la voix d'Asna Benani et le poème harmonique de Vincent Dumestre qui ouvrira et qui refermera donc cette série de concerts autour des Lamentations. Merci d'être avec nous sur France Musique, il est 8h09.
C'est l'été sur France Musique. Musique Matin, le 7h39 de Clément Rochefort.
Et tout de suite, on reprend notre petit vélo pour le Tour de France des festivals. Et ce matin, nous prenons la direction de Sisteron, où commence demain le festival des Nuits de la Citadelle de Sisteron. Ça commence demain le 17 et c'est jusqu'au 13 août. C'est la 66e édition de ce festival. Pour en parler, nous sommes ce matin au téléphone avec sa directrice artistique, Edith Robert. Bonjour.
Bonjour.
Edith Robert, oula, vous nous entendez, Edith Robert ?
Moi, je vous entends.
Oui, vous nous entendez. Bon, le Festival des Nuits de la Citadelle, on peut dire que c'est un des plus vieux festivals de France, hein, 66e édition. Ça a commencé en 1928 au départ.
Mais oui, vous voyez, c'est encore plus que 66e édition si on compte justement les années qui ont précédé la guerre. Puisque le festival a été créé en 1928, s'est interrompu évidemment en 1939 et a connu une renaissance à partir de 1956, voilà pourquoi nous en sommes à la 66e édition.
C'est un festival qui est né vraiment autour de la Citadelle ?
Exactement. Vous savez, la Citadelle a été cédée par l'armée à la ville de Sisteron, qui à l'époque, la pauvre, a dû se demander ce qu'elle allait faire. C'est un monument énorme, gigantesque, sur ce piton rocheux, qui est une pure merveille d'ailleurs, une merveille d'architecture. Et puis, il y a eu un homme qui a eu une très bonne idée, qui était Corrège d'Orange, vous savez, les Corrégies d'Orange, qui sont le plus ancien festival de France, qui est né à la fin du siècle dernier, enfin même du 19e siècle. Et donc, ce monsieur, Marcel Provence, a suggéré à la ville de créer un théâtre de verdure dans la citadelle, en utilisant justement cette succession d'anciennes bastionnées. Et ça a donné un lieu magique.
Voilà, on voit d'ailleurs les montagnes, hein, sur une photo, là, moi je vois, parce que je n'ai pas le plaisir d'être venu encore à la citadelle de Sisteron, mais enfin je peux apercevoir que depuis la salle, on peut voir la nature au loin, les montagnes qui se découpent sur le ciel, c'est magnifique. Donc tous les concerts ont lieu en plein air, non pas tous, hein, il y a aussi des concerts en intérieur, dans le cloître.
Tous les concerts ont lieu en plein air, parce que même dans le cloître, on est en plein air aussi. Il n'y a que le concert de musique sacrée que nous donnons dans la cathédrale, une belle cathédrale romane, Notre-Dame des Pommiers.
Je le disais, donc du 17 juillet au 13 août, vous avez un programme qui est très très varié. Hein. Ce n'est pas uniquement du classique, il y a aussi de la danse, il y a du jazz. Vous pouvez nous donner quelques rendez-vous à ne pas manquer ?
Et oui, mais vous savez, nous cultivons l'éclectisme. Voilà, un généreux éclectisme en essayant de couvrir un peu toutes les formes d'expression artistique. Évidemment, toujours au meilleur niveau et pour le plus grand nombre. Vous savez, ça c'est notre objectif et notre ambition. Alors, vous dire quels sont les spectacles à ne pas manquer, vous savez, c'est difficile.
Ah, il faut faire un choix. Je sais que c'est difficile, mais on ne peut pas dérouler tout l'agenda.
Alors, j'ai eu un coup au cœur pour les deux soirées de danse. D'habitude, nous n'en faisons qu'une soirée de danse, mais là, exceptionnellement, entre Gravité, Presse Locage et Folia de Morane Merzouki, là, je n'ai pas pu résister. J'ai opté pour les deux soirées. Nous avons la soirée de théâtre aussi, qui est particulièrement originale, cette mégère apprivoisée dans une mise en scène tout à fait délicieuse, avec un vent de féminisme qui souffle sur cette œuvre et qui la rend de toute façon presque contemporaine. Et puis évidemment, il y a les concerts, des concerts sublimes, avec un concert de musique sacrée dans la cathédrale avec les talents lyriques et Christophe Rousset et puis la jeune chanteuse Ambroisine Bray,
qu'on adore.
Magnifique, absolument, que nous adorons aussi, nous accueillons pour la deuxième fois. Puis il y aura Alena Baeva, cette merveilleuse violoniste russe, dans un récital où on aura du Tchaïkovski, elle sera accompagnée au piano par Edin Kolodenko. Et puis nous aurons du jazz avec Deep Rivers et le jeune Paul Lai, magnifique pianiste jazz, jeune aussi, brillant et en trio avec une chanteuse de jazz suédoise.
Une dernière question, puis, Edith Robert. on peut pas développer tout le programme, mais je crois qu'on a déjà dit l'essentiel, hein, quand même, des Nuits de la Citadelle. Une dernière question, si on vient au concert le soir, est-ce qu'on peut en profiter? La journée, il y a des randonnées à faire, des lieux culturels à visiter?
Ah, bien
dans
sûr,
la région.
Dans la région, non, bah, évidemment, je suis, par chauvinisme, je commencerai par Sisteron. Il y a un musée gallo-romain qui est passionnant, très intéressant à voir. Puis, il y a des randonnées, alors là, bien sûr, on est en Haute-Provence, on a un ciel bleu magnifique, le ciel le plus pur de France. Et voilà, donc je pense qu'on peut passer de délicieux moments dans cette région.
Eh ben, vous nous avez donné bien envie, Edith Robert, ce matin, d'aller faire un tour aux Nuits de la Citadelle à Sisteron. Ça commence demain et c'est jusqu'au 13 août. Un programme très varié. Vous avez évoqué la présence de Paul Lai. C'est un pianiste de jazz que personnellement j'adore moi aussi et qui vient de sortir son tout dernier album, un album solo intitulé Full Solo, un album sur lequel il nous propose ses créations à lui autour ou d'après la musique de Beethoven. Merci Edith Robert.
Oh, merci à vous.
Thank you.
Ah, c'est jouissif, c'est super inspiré, c'est bien fait. C'est le pianiste Paul Lai et c'est un extrait de son dernier album Full Solo d'après Beethoven. Très beau disque de jazz, un disque bien sûr partenariat de France Musique. Paul Lai qui est donc à retrouver au Festival des Nuits de la Citadelle à Sisteron. Merci d'être avec nous ce matin, il est 8h20 et comme tous les jours à cette heure-ci, on fait le point des concerts à l'affiche du jour sur France Musique. À 16h, on continue de célébrer les 50 ans du Festival de Saintes en compagnie de Benjamin François avec un nouveau montage de concerts d'archives de 1981, de 1995 avec du Monteverdi et du Purcell et toujours bien sûr le Collégium Vocal de Gand, la Chapelle Royale et Philippe Hervègue qui est la figure tutélaire du Festival de Saintes. À 20h, retour ici à Montpellier avec un concert en direct de l'opéra Berlioz, c'est-à-dire du Corum où je me trouve actuellement, un concert du violoniste Renaud Capuçon en duo avec Michel D'Alberto. Au programme Forêt, Édouard Elgar et Richard Strauss, le répertoire des sonates pour violon et piano. Et puis restez à l'écoute puisqu'à 22h, vous irez retrouver toujours à Montpellier, mais un petit peu plus loin, en banlieue, au domaine d'Eau, dans l'amphithéâtre d'Eau, Alex Dutil qui vous attendra pour les grandes soirées jazz du festival avec ce soir Daniel Zimmermann, Dichotomies. C'est le tromboniste Daniel Zimmermann avec ses musiciens, Benoît Delbecq au piano, Rémi Chuteau au sax et Franck Vaillant à la batterie. Alors moi je propose en avant-goût de retrouver Renaud Capuçon et Michel D'Alberto dans un extrait de la sonate numéro 1 en la majeure de Gabriel Fauré. Thank you. Le violon de Renaud Capuçon, le piano de Michel d'Alberto et le troisième mouvement de la sonate pour violon et piano numéro 1 en la majeure, l'opus 13 de Gabriel Fauré, Renaud et Michel qui seront en concert ce soir à 20h au Festival de Radio France Occitanie Montpellier, un concert à suivre en direct avec le camarade Arnaud Merlin. Merci d'être avec nous ce matin, il est 8h26.
C'est l'été sur France Musique.
Et tout de suite, c'est l'heure de retrouver notre rubrique, l'été des frères Jacques.
Que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé électrise.
Et aujourd'hui, nous sommes vendredi et c'est certainement un nouveau week-end de départ en vacances qui se profile pour bon nombre d'entre vous. Alors la semaine dernière, je vous mettais en garde contre les pannes de voitures avec les pompistes. Cette semaine, je voudrais simplement vous rappeler une règle de sécurité routière élémentaire, admirablement chantée par les frères Jacques. Mettez votre ceinture de sécurité. Sauf qu'avec les frères Jacques, quand c'est Martial Carré qui écrit le texte et Hubert de Gex qui le met en musique, tout d'un coup, cette histoire de ceinture qu'on a toujours du mal à accrocher, surtout à l'arrière de la voiture, cette histoire de ceinture donc a l'air un peu l'air de rien de passer en dessous de la ceinture. Mais je vous laisse décrypter le double sens par vous-même. La ceinture, les frères Jacques.
Lorsqu'on auto, on va se promener, mais avant de mettre la ceinture, ben la ceinture, faut la trouver. Il y a un bout avec un truc, il y a un bout avec un machin. Quand on enfonce le bout d'un truc, il doit faire clic dans le machin. Bout qui se termine par un machin, s'accroche à gauche sur un truc. Mais comme on ne trouve jamais le truc, on laisse pendouiller le machin. Seulement le bout qui a un truc, lui, s'accroche pas sur un machin. Ce qui fait que lorsqu'on cherche le truc, il est paumé sous les coussins. Votre voisine cherche aussi son truc. En même temps que vous, elle met sa main. Juste avant, elle vous fauche le truc. Et vite fait clic dans son machin. Quand on a le bout qui a le truc, faut trouver le bout qui a le machin. On gratte et on trouve des pas de trucs, mais on ne trouve jamais le machin. Car la portière, c'est là qu'est le truc coince dehors votre machin. Ce qui fait qu'on ramène des tas de trucs et de la boue sur le machin. On a enfin le machin et le truc, on fait clic, on respire un brin. Mais on voit qu'il y a du mou dans le truc et des tas de nœuds dans le machin. Pour tendre la courroie du truc et dénouer celle du machin, on fait des nœuds à celle du truc et on détend celle du machin. Cette fois, ça y est, j'ai mon truc bien à plat avec mon machin. Et bien voilà, j'ai coincé le truc de la voisine avec le mien. Alors faut décliquer nos trucs et décroiser nos deux machins. Et quand on veut remettre nos trucs, faut en régler ces cinq machins. On va partir maintenant que nos trucs nous paraissent parfaitement au point. Mais j'ai tellement serré le truc que je ne peux plus desserrer le frein. Alors j'envoie balader le truc et je fiche en l'air le machin.
Je mets le contact et des tas de trucs.
Prêt à partir,
je desserre le frein.
Mais un flic vient près de la voiture et nous dit: faut pas oublier de bien attacher votre ceinture.
Mais la ceinture, faut la trouver.
Il y a un bout avec un truc et un bout avec un machin. Quand on enfonce le bout d'un truc, il doit faire vivre dans le machin. Et puisqu'il faut qu'on vous explique dans le langage de notre époque, écoutez ce conseil d'un flic. Un petit clic vaut mieux qu'un grand choc.
La ceinture par les frères Jacques, une chanson de Marcel Carré et d'Hubert de Gex. Alors retenez bien la leçon, hein. Attachez vos ceintures de sécurité aujourd'hui sur la route des vacances. Il est 8h30.
C'est l'été sur France Musique.
Il est temps d'accueillir nos deux invités du jour, Pierre Lelièvre et Gabriel Bianco, deux guitaristes du quatuor Eclisse. Le quatuor au grand complet, c'est Gabriel, c'est aussi Arcaïtz Chambonnet, c'est Pierre et c'est Antoine Morinière. Ce soir, ils sont en concert à Saint-Géniès-des-Mourgues et demain à Murviel-les-Montpellier. Ils étaient en concert hier à Alenia, tout ça c'est en Occitanie, c'est dans la région autour de Montpellier, dans le cadre du festival Montpellier Radio France Occitanie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Clément et merci pour ce magnifique accueil.
Bonjour Clément. Vous connaissiez cette chanson des frères Jacques ?
Non, la ceinture. On risque pas de l'oublier, je crois.
Vous êtes venu en voiture, vous ?
Non, on est venu en train.
Oui, d'ailleurs, est-ce que vous avez peu dormi, j'ai l'impression, cette nuit, non ?
Quoi, c'est, tu vois, non, ça se voit, c'est ce que tu penses.
Non, mais parce que vous êtes déjà, on vous remercie du fond du cœur d'être là avec nous ce matin, parce que vous vous êtes levé très très tôt, il faut le dire aux auditeurs. Vous étiez en concert hier soir et vous avez pris un train de nuit pour venir spécialement au micro de France Musique, alors que vous rejouez ce soir. Comment ça s'est décidé avec le quatuor? Comment les autres ont réussi à obtenir de dormir plus longtemps que vous? Vous avez perdu un pari pour que ce soit vous deux?
Non, justement, on s'est battu, Pierre et moi, pour venir te voir le matin, parce qu'on peut se lever à n'importe quelle heure, c'est pour venir.
Oh, ils sont trop gentils. Vous êtes des habitués, tous les deux, hein, du festival, enfin tous les quatre même, le Quatuor Eclis, des habitués du festival de Radio France. Vous avez déjà pas mal parcouru toute la région Occitanie. Est-ce que depuis quelques années, il y a des lieux comme ça, des gens, des recettes peut-être qui vous ont marqué dans la région, Pierre?
Je pense qu'à chaque fois, c'est toujours un plaisir de croiser des nouvelles personnes, de retrouver des gens qu'on avait pu voir effectivement il y a quelques années dans d'autres villes, et puis ah bah tiens, Quatuor Eclis vient, et donc ah mais vous rappelez, on s'était vu à tel endroit. Alors on se rappelle pas forcément de tous les lieux, toutes les personnes, mais c'est toujours effectivement un plaisir de retrouver des gens qu'on avait croisés lors d'éditions précédentes ou de concerts dans la région.
Ça, c'est vraiment le charme des festivals, hein, parce que retrouver comme ça des têtes connues, cette proximité avec le public, on l'a pas forcément, hein, dans les grandes salles de concerts traditionnelles pendant l'année. Et est-ce qu'il y a vraiment une ambiance différente quand on est en festival?
Ben, c'est surtout que, comment dire, c'est souvent des concerts qui sont organisés vraiment à échelle humaine. C'est-à-dire qu'on a un programmateur qui est souvent un passionné, qui choisit ses artistes par rapport à ses goûts, à ses envies, et puis c'est des gens avec qui on passe du temps. Il y a souvent quelques instants privilégiés avec le public à la fin du concert, et c'est quelque chose qu'on retrouve moins dans les grandes salles, mais quand même aussi de temps en temps.
C'est des moments que vous aimez, ça, ces moments où vous pouvez rencontrer le public, discuter avec eux, boire un petit verre peut-être après le...
Oh oui, on a beaucoup d'anecdotes à ce sujet, mais il est trop tôt pour en parler.
Alors, vous êtes ici pour proposer un programme qui tourne donc dans la région. Je l'ai dit, encore un concert ce soir et puis demain autour de Montpellier. C'est quoi le programme que vous êtes venu présenter cette année?
Alors, le programme s'articule essentiellement autour de la musique espagnole, avec quand même une grande partie tirée de notre dernier disque, Evocación.
Evocación.
Evocación, sorti en avril 2020. D'autres. Alors après, on n'a pas fait uniquement le programme du disque, aussi parce que 500 est à l'honneur cette année, donc on a repris la danse macabre qu'on avait jouée dans un il y a quelques années, et puis on a un petit peu complété avec d'autres choses, mais hormis la danse macabre, vraiment des pièces tournées vers l'Espagne, soit de compositeurs espagnols, soit de compositeurs comme Debussy ou Boccherini, qui ont écrit en pensant à l'Espagne.
Oui, c'est vrai, il y avait une fascination de l'Espagne au début du siècle pour des gens comme Ravel, Debussy, Gabriel.
Oui, mais d'ailleurs c'est assez, comment dire, la frontière entre la France et l'Espagne musicalement, on pourrait presque croire qu'elle n'existe pas, parce que même si Debussy n'était jamais allé en Espagne, il écrit La soirée dans Grenade, et parfois même on a l'impression que la musique la plus espagnole, elle est écrite par des compositeurs français comme Carmen par exemple. Donc c'est souvent, on dit souvent que la musique espagnole, c'est une musique un peu nationaliste, Granados, Albéniz, mais c'est vrai pour le coup, mais elle est très inspirée de l'impressionnisme français, et les compositeurs français comme Ravel, Debussy ont beaucoup écrit en hommage à l'Espagne.
En plus, je crois que Debussy l'avait écrit sans y être allé au départ.
Exactement. Hein, donc, et c'est très évocateur en plus comme œuvre, et c'est une pièce pour le coup, La soirée dans Grenade, qui a un lien avec la guitare, puisque c'est écrit donc en hommage à Manuel de Falla. Et Manuel de Falla, à la mort de Debussy, va écrire la première pièce pour guitare qui a été composée par un compositeur non guitariste en 1920. Et il va reprendre un thème qui est dans La soirée dans Grenade.
Alors nous, on va pas écouter La soirée dans Grenade, mais on va écouter Alborada del Gracioso de Maurice Ravel, autre compositeur. Alors lui, on comprend son affinité avec l'Espagne, puisqu'il est quand même né tout juste à côté au Pays Basque. Et c'est vous, le Quatuor Eclis. un extrait. Bah oui, on n'a pas le temps de l'écouter en entier, mais vous pouvez procurer les disques du Quatuor Eclis si vous voulez l'entendre en entier, cette pièce Alborada del Gracioso de Maurice Ravel. Le Quatuor Eclis qui est ici avec nous, enfin une partie, la moitié, l'autre partie dort encore. Le Quatuor Eclis qui est en tournée dans le cadre du festival Radio France Occitanie Montpellier. Tout à l'heure, on se disait en écoutant la musique, tout à l'heure j'ai annoncé les noms des quatre musiciens du Quatuor Eclis. Et puis effectivement, j'ai même pas réagi en disant le nom d'Antoine Morinière, qui est un jeune guitariste qu'on aime énormément, qui est formidable. Mais normalement, c'est Benjamin Valette qui est dans le Quatuor Eclis. Qu'est-ce qui s'est passé, Pierre Lelièvre ?
Bien, Benjamin... attend un heureux événement et donc ne pouvait pas être avec nous pour cette tournée. Et c'est donc pour ça qu'on a fait appel à Antoine qui remplace vraiment admirablement bien Benjamin. Et donc on est très content de l'accueillir avec nous. Et on fait un petit coucou à Benjamin qui nous écoute.
Ah bah ouais, Benjamin, on l'embrasse très très fort et on lui souhaite plein de bonheur à venir. On écoutait donc à l'instant une pièce de Ravel qui est une transcription donc pour quatuor de guitare à partir du piano. Vous avez pas mal d'ailleurs sur vos albums de pièces qui viennent du piano ou de la musique de chambre, mais surtout du piano, Debussy aussi. Est-ce que vous essayez de chercher à imiter le piano, retrouver un truc pianistique, ou alors au contraire vous en faites autre chose?
Non, je pense que l'idée, comment dire, quand on fait de l'arrangement comme ça, c'est pas de copier l'original, d'autant plus quand on joue de la guitare, puisque c'est un instrument qui est très typé, qui a une esthétique très particulière. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre comment la guitare peut réinterpréter ces œuvres-là. Alors là, comme c'est souvent des œuvres dans ce programme qui évoquent l'Espagne, ça tombe presque sous nos doigts, puisqu'il y a des techniques issues du flamenco qu'on peut utiliser facilement, comme vous avez pu entendre dans la pièce précédente de Ravel. L'idée, c'est de réinventer cette musique, mais sans trahir l'esprit. Et c'est pour ça que le choix du répertoire est très très important.
Oui, pardon, excusez-moi, mais je buvais vos paroles, du coup. Et en parlant de ces arrangements, parce que c'est vous qui les faites, hein,
tous ces arrangements. Oui, on fait nous-mêmes.
Hein. Et d'ailleurs, vous avez une collection, votre propre collection, vous éditez vos arrangements, ou ça va se faire bientôt?
Alors, oui, on avait édité quelques arrangements chez Durance à la Bérechig, il y a quelques années, pour notamment le deuxième disque Invitation française. Et là, on ouvre notre propre collection chez les Productions d'Oz. C'est un éditeur canadien. Et donc, on a fait un petit concours pour décider de la couverture. On a fait une sorte de... on a lancé un appel.
Oui, c'était sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je me souviens, au mois de février-mars, à peu près.
C'est ça. Et on a reçu une trentaine d'illustrations. On a réussi à se mettre d'accord, mais en faisant un vote secret à quatre. Et il y en a quatre qui sont sortis de ce vote. Et on a notre gagnant, qu'on doit d'ailleurs appeler. On l'a pas encore fait.
Vous voulez qu'on dise son nom à l'antenne? Peut-être qu'il se reconnaîtra. Non, vous en souvenez
pas. Parce que c'est vrai que, comment dire, on a communiqué que par email.
Et ah oui, donc, c'est des adresses, c'est des pseudos même parfois.
Voilà,
sur Instagram. Et alors, ça va ressembler à quoi ce visuel, Pierre?
C'est assez, c'est assez stylisé. C'est quelque chose parce qu'on a eu vraiment des propositions très 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 différentes. On va dire que la consigne pour ce petit concours était de représenter le Quatuor. Et finalement, on a eu des choses très très différentes. Des gens qui ont essayé de nous dessiner. On a eu des choses un peu plus osées. Et là, c'est assez... oui, on a eu...
on a eu des dessins d'enfants aussi. Hein. On a eu plein de choses. Et alors là, pour le coup, c'est l'illustration qui a donc remporté le concours, et je trouve assez intéressante, parce qu'on a quatre boulons qui sont de formes différentes, mais qui ont le même diamètre.
Boulons.
Oui, c'est ça. Et c'est très très original.
Il y a des boulons dans la guitare, moi je savais pas.
Non, mais c'est juste en fait ça représente le quatuor, c'est-à-dire quatre pièces qui fonctionnent ensemble mais qui sont façonnées de manière différente. Et je trouvais l'idée était sympa. Voilà.
En tout cas, c'est
ce que les gens ont préféré.
J'avais jamais eu cette image de vous quatre en bielle avec des boulons à la place de la tête.
Nous non plus.
Pourquoi pas, c'est pas vrai. Vous en avez beaucoup des arrangements maintenant à proposer?
Ah oui, là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir parce que, comment dire, il y a... Il y a certains compositeurs qui vont bientôt tomber dans le domaine public, et il y a beaucoup d'arrangements, c'est toujours un processus très long, hein, de sortir des arrangements, faut retravailler les doigtés, etc., il y a une révision toujours à faire. Donc là, on a pas mal de choses qui vont sortir.
Il faut réviser les boulons, hein. Ça, de temps en temps, c'est mieux. En parlant d'arrangement, en voici un autre, celui de la suite espagnole d'Albéniz. Extrait d'Asturias, extrait de la suite espagnole d'Albéniz, transcrit par et pour le quatuor Eclis, dont on a deux des membres avec nous ce matin, Pierre Lelièvre et Gabriel Bianco, en direct depuis Montpellier. Le quatuor Eclis qui donne encore deux concerts ce soir et demain dans la région Occitanie, dans le cadre du festival. Le quatuor qui m'a montré, pendant qu'on écoutait cette belle musique d'Albéniz, la vraie pochette des futures éditions des arrangements. Alors écoutez, moi je suis petit-fils d'un quincailler, je vous le dis. Et ce que vous m'avez montré, ce ne sont absolument pas des boulons. Je ne peux pas vous le dire. Ça ressemble plutôt à des roulements à billes, ou en tout cas à des rondelles, peut-être aussi, pour profiter. Mais en tout cas, ça ne sont pas des boulons. Vous êtes nul en bricolage, vous, hein, ça c'est sûr.
Il y a un débat qui est né là pendant ces quelques minutes et on n'a pas réussi à se mettre d'accord.
Je pense qu'on demandera à l'auteur.
Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est très beau, hein, c'est très stylisé, c'est très bien représenté. Est-ce que vous jouez tous les quatre la même guitare dans le quatuor? Est-ce qu'il y a une homogénéité de sonorité?
Non.
Non, on n'a pas du tout les mêmes guitares, si ce n'est que ce sont des guitares de lutherie moderne, donc avec des certaines, il peut y avoir un peu de carbone dedans ou des choses, mais on a, de toute façon, comme on a quatre jeux différents, voilà, chacun a trouvé son instrument et finalement on a construit le son du quatuor avec nos quatre jeux et nos quatre guitares différentes. Oui. Après, elles ont toutes six cordes. 20 cases.
Oui,
bah...
oui, il y a pas un luth, un oud et puis une guitare. Hein. C'est bien quatre guitares modernes.
Non, mais par contre, ce qui est intéressant, comment dire, de remarquer, c'est que le quatuor de guitare, c'est un ensemble où les quatre instruments sont identiques, ce qui est complètement différent du quatuor de saxophone, par exemple, ou du quatuor à cordes, quintette avant, quintette de cuivre. C'est souvent des instruments qui ont chacun leur sonorité ou au minimum leur tessiture.
Leur tessiture, oui. Ou le consort de viol, d'ailleurs. Oui.
On n'a pas de guitare basse ou de guitare soprano.
L'ambitus à la guitare est suffisamment large, en tout cas, pour qu'on puisse tenir tous les rôles.
Est-ce que vous avez déjà essayé ou eu envie d'essayer du sextuor de guitare, du quintette de guitare, du septuor de guitare ou carrément de l'orchestre de guitare?
Alors, l'orchestre de guitare, c'est des choses qui existent, alors soit dans les stages, les festivals ou dans les écoles de musique. Moi petit, j'ai fait beaucoup d'orchestres de guitare et ça m'a.
On n'appelait pas ça d'ailleurs les orchestres de plectre, non? Non, ça c'est plutôt pour les mandolines,
oui.
Ça, non?
Oui, parce que le plectre étant ce qu'on pourrait appeler communément un médiator. Effectivement, pour les ensembles de mandolines. Oui, il y a aussi, je crois, des guitares souvent dans ces ensembles-là.
Oui, souvent pour l'harmonie.
Pour l'harmonie, mais non, pour les ensembles de guitares, donc c'est là vraiment que des guitares. Alors là, pour le coup, on va pouvoir trouver parfois des petites guitares soprano, des guitares basses, pour vraiment donner encore plus une dimension orchestrale. Donc, mais après, non, pour l'instant, on n'a pas encore eu d'idée ou de projet pour jouer à 5, 6 ou 8, mais pourquoi pas.
De toute façon, je revenais sur l'histoire du plectre, ça se joue pas avec un plectre, la guitare classique.
On en a 4. Hein,
ouais, on en a 4.
On joue avec nos ongles.
Avec les ongles très longs. Ah oui, ça, je sais que c'est toujours un problème pour les guitaristes. Il faut faire très attention à ses mains, il faut pas se casser un ongle parce qu'on est foutu après. Hein.
Bah, c'est... Au début, c'est un problème quand on commence à aller, quand on est jeune et qu'on se dit ah, faut laisser pousser les ongles parce qu'on faut s'habituer. Ne serait-ce que ouvrir une porte peut devenir un problème.
C'est vrai.
Prendre ses clés dans sa poche devient aussi problématique. Mais en fait, au bout d'un moment, ça fait partie de nous.
On ne se rend pas compte des drames que vivent les musiciens.
Non, mais alors, justement, j'ai une anecdote assez drôle à ce sujet. J'avais un étudiant qui se cassait toujours l'ongle de l'index au même endroit. Et il comprenait pas pourquoi, et finalement, on a découvert qu'il mettait ses clés toujours dans la même poche, la poche droite, et donc je lui ai demandé de coudre ses poches, pour qu'il ne mette plus ses clés dedans, et ça a réglé le problème, et c'est une vraie histoire, hein. Peut-être qu'il m'écoute ce matin, d'ailleurs.
Oui, bon, ou alors on peut lui conseiller de mettre des faux ongles aussi, ça peut marcher, voilà. Bon, les amis, on va devoir se quitter, hein, parce que la radio a une horloge qui tourne, il est déjà 8h52. En tout cas, on vous remercie très très fort d'être venu nous voir ce matin, d'avoir fait l'effort de vous lever si tôt pour venir nous rejoindre à 8h30. On va se quitter avec un dernier extrait de votre tout dernier disque. Il faut absolument se le procurer. C'est sorti chez Ad Vitam, qui fait beaucoup pour le répertoire de guitare et puis pour vous, le Quatuor Eclipse. Depuis plusieurs années, c'est la danse finale du Tricorne. Et on va redire une dernière fois que vous êtes en concert dans la région ce soir à Saint-Géniès-des-Mourgues et demain à Murviel-les-Montpellier, tout près de Montpellier, où nous nous trouvons en direct du festival de Radio France Occitanie-Montpellier. Merci à tous les deux. Une petite sieste peut-être là, s'impose.
Un petit café avant et une grosse sieste.
Merci à tous les deux, à bientôt.
Merci beaucoup. Thank you.
Ah ben, il faut des ongles pour faire ça. La danse finale du Tricorne de Manuel de Falla, transcrit pour le quatuor de guitare Eclis, qui était avec nous ce matin, et cet extrait du disque Evocation. Et bien voilà, Musique Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Il est temps de découvrir nos trois gagnants du jour. Mais d'abord, je vais vous donner la réponse à la question du jour. Alors, quelle partie du corps assure à Samson, dans l'histoire de Samson et Dalila, sa puissance surhumaine? Ce sont bien sûr ses cheveux. Samson est ce qu'on appelle un nazir, un homme consacré à Dieu en vue d'une mission guerrière. Et donc, il doit ne jamais se couper les cheveux dont il tire toute sa force. Un secret qui finit par découvrir la séductrice Dalila et qui entraîne Samson à sa perte à la fin de l'opéra de Saint-Saëns. Alors bravo à nos trois gagnants tirés au sort aujourd'hui. Dimitri Tchekov de Rieux dans le Morbihan, Dominique Fourreau de Talence en Gironde et Françoise Vanier de Villers-les-Nancy en Meurthe-et-Moselle. Tous les trois vous recevrez d'ici quelques jours un exemplaire du dernier disque Le Chanteur de Roberto Alagna. Restez à l'écoute de France Musique. La journée ne fait que commencer. Elle se poursuit dans quelques instants à 9h avec Aude Gigère pour l'été classique. Bonjour Aude.
Bonjour Clément.
Vous nous entendez bien depuis Paris?
Je vous entends très très bien. Parfait.
Aude, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui au menu de l'été classique?
Aujourd'hui, de la romance avec Schumann, avec Chausson, avec Tchaïkovski, Strauss.
Oh là là, ça va être une matinée romantique, à souhait, au Gigère, dans quelques instants à 9h sur France Musique. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite un bon week-end, mais je vous précise d'abord que lundi, je vous retrouverai dès 7h30 pour une nouvelle semaine de Musique Matin et que nous recevrons Bruno Messina, le directeur du festival Messiaen au Pays de la Mège, en compagnie de Philippe Manoury, qui est l'un des deux compositeurs en résidence cette année au festival. On y parlera donc de création et de Messiaen. Et puis je voudrais faire un énorme bisou à toute l'équipe qui m'accompagnait ce matin à Montpellier depuis le Corum, en particulier notre technicien Alex Billard. On l'a beaucoup taquiné, il nous a beaucoup taquiné aussi. Je parle au passé parce que c'était la dernière émission qu'on faisait ensemble. C'est un nom que vous n'entendrez plus très souvent dans quelques temps, puisqu'il a décidé de voler vers d'autres cieux, toujours à Radio France, mais dans d'autres services. Il sera un petit peu plus loin de l'antenne pendant un petit moment. Alex Billard, merci du fond du cœur, on t'embrasse très fort. Merci aussi à David Abécassis qui était avec nous ce matin, Flora Sternadel, Florian Henault et Philippe Petit à la réalisation. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Je vous embrasse.
À réécouter sur francemusique.fr.